portant la crit. Sans pas la guerre. S'en porteront de la triste. Souris.
Gretje Biema, une voix hollandaise, une voix de femme incroyable, vous l'aurez peut-être remarqué. Et là aussi, un espace vocal insensé, elle peut aller très bas, très haut, un peu comme, comment s'appelait-elle, cette chanteuse péruvienne, Yma Sumac, c'était ça son nom, Yma Sumac, pardon, oui, qui avait, on le savait, une voix incroyable avec 6 octaves. Et c'est aussi ce que possède dans ses capacités vocales Gretje Biema. Maintenant, je vous emmène, je vous le disais tout à l'heure, dans un nouveau chapitre de l'approche proposée par Nancy Auerfolk et Rita McGrath de la religion par les femmes. Et aujourd'hui, nous partons en Inde. Mais tout d'abord, je me permets de vous relivrer quelques avertissement écrit par nos deux auteurs au début de leur livre. Dans quelles circonstances ont-elles fait ce livre ? D'abord, il faut savoir que ces deux femmes, Nancy Auerfolk et Rita McGrath, toutes les deux ont étudié pendant longtemps l'histoire des religions et ont constaté, comme par hasard, que les femmes étaient systématiquement laissées de côté dans l'expression « homme religieux ». Parce que c'était l'humain religieux, mais en fait, l'homme, le mâle, les femmes n'avaient pas du tout leur place dans les traditions religieuses. Alors, ce qu'elles ont décidé de faire, c'est un livre qui est en fait un écrit à plusieurs mains. Elles ont passé du simple portrait sur le vif à l'analyse de systèmes complexes, et plusieurs auteurs, hommes et femmes, ont contribué à la rédaction de ce livre. Il offre une présentation que j'ai trouvée d'ailleurs au moment de feuilleter, assez simple, mais dans laquelle il y a une unité et surtout une sorte de progression des multiples formes qui nous donnent une image de la ville religieuse des femmes dans diverses traditions religieuses du monde. Parce que je crois que c'est une approche délibérément choisie par nos auteurs. Ce qu'elles veulent montrer, illustrer, c'est le fait que la vie religieuse des femmes est structurée selon des modèles interculturels. Alors elles ont opéré une sorte de collage en se documentant à partir d'un grand nombre de recherches historiques ou de travaux faits sur place. Et leur volonté était de conserver à tout ce matériel un aspect le plus vivant et le plus précis possible pour faire entrer le lecteur ou la lectrice dans le monde des femmes. Et cela les a amenés à privilégier des études de cas comme moyen d'illustration. Et leur désir était de mettre en lumière des modèles qui passent par-dessus les limites religieuses et culturelles afin de faire apparaître ce qui est commun à l'expérience des femmes plutôt que ce qui les différencie. Alors, nous lirons des petits bouts de ce livre. Il est évidemment hors de question que je vous fasse partager l'ensemble du livre, mais en choisissant quelques parties, par exemple, comme aujourd'hui, un portrait d'une femme considérée comme frappant parce qu'il est le cas d'un exemple d'une femme forte qui a fonctionné comme leader religieux. Ce sera donc l'histoire de Jnanananda, qui vit à Madras et qui est une mère gourou. Nous avions déjà lu l'histoire de Julia. Julia, elle, qui est une femme de vin d'Afrique orientale qui vit au Zimbabwe. Ça, c'est un exemple de ce que nous pourrions lire. Et puis, nous pourrions aussi partager ensemble des modèles qui sont tout à fait de base, par exemple la transformation souvent explosive qui s'opère chez les femmes qui sont appelées à jouer un rôle exceptionnel, par exemple dans la religion, et puis les préoccupations ménagères et familiales de celles qui combinent leurs pratiques religieuses et leur existence entre guillemets ordinaire. Et puis il y a peut-être une troisième approche que nous pourrions faire à l'aide du livre de Nancy Auerfolk et Rita McGrath. Eh bien, c'est s'attacher à essayer de comprendre, de décrypter des modèles un peu plus compliqués où les préoccupations des femmes et les changements qui se produisent dans leur existence sont situés dans des contextes religieux, culturels, tous différents les uns des autres. Voilà. Alors, je vous le rappelle, aujourd'hui, je vous propose un portrait d'une femme forte, leader religieux, une femme gourou en Inde. Et je vous fais juste part de l'ultime conclusion à l'introduction de leur livre qu'ont fait Rita McGross et Nancy R. Folk, qui toutes les deux travaillent dans des universités aux États-Unis, l'une dans l'université de Wisconsin, qui s'appelle Eau Claire. Je ne sais pas comment les Américains prononcent cela. Et Nancy R. Folk travaille à la Western Michigan University. Et elle conclut en disant: les données de la vie religieuse des femmes, de même que l'interaction des femmes et des hommes dans les systèmes religieux, sont à la fois beaucoup plus riches et beaucoup plus complexes qu'on ne se l'imaginait, alors que l'on se contentait souvent d'étudier le seul homme religieux. Et en fait, il semble clair que si nous voulons étudier la religion sérieusement, nous devons accepter d'accorder également notre attention aux femmes, parce qu'elles ont constitué et constituent à ce jour au moins la moitié de presque toutes les communautés religieuses de la planète. Jnanananda de Madras, la mère gourou. Alors, la femme gourou en Inde, qui est un, quand on dit gourou, on pense à guide spirituel, est un cas en fait tout à fait inhabituel, en ce qu'elle a prononcé les vœux religieux du renoncement au monde et elle a quitté son mari, sa famille et tout ce qui faisait sa vie auparavant. Aujourd'hui, à l'instar de la plupart des femmes appelées à une vocation exceptionnelle, elle préfère même parfois ne plus se considérer du tout comme une femme. Du reste, ses dévots ne l'aperçoivent non plus d'abord comme telle. Elle est tout simplement et avant tout gourou. C'est Charles White qui a écrit le texte qui raconte, qui fait le portrait de Jnanananda, cette mère gourou de Madras. Charles White a obtenu un diplôme en histoire des religions à l'université de Chicago et il enseigne l'histoire des religions à l'American University à Washington, donc la capitale des États-Unis. Il est allé en Inde à de nombreuses reprises pour étudier les gourous indiens contemporains. Et il a écrit plusieurs monographies. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a rencontré une fois Jnanananda. Alors, je vous raconte ce qu'il écrit. J'ai rencontré pour la première fois sa sainteté Satguru Swami Sri Jnanananda Saraswati au cours de l'été 1976. Un Américain devenu moine hindou qui avait voyagé à travers les Indes pendant plusieurs années me conduisit pour que j'aie part à son darshan, littéralement pour l'avoir et aussi pour partager sa présence spirituelle. J'étais à ce moment en train de rassembler des matériaux pour un cours sur les rôles de leader tenus par les femmes dans l'hindouisme. Jnanananda avait été très coopérative pour me parler de ce qu'elle avait vécu et je désirais avoir l'occasion de la rencontrer à nouveau. Je retournais à Madras en automne 78, espérant disposer de plus de temps pour m'entretenir avec elle. Mais je ne pus la voir qu'une fois. Elle était presque totalement absorbée par un samadhi, c'est-à-dire une transe mystique, et ne donnait pas d'interview. Enfin, en mars 1979, je me rendis encore une fois à Madras et pus avoir plusieurs entretiens avec elle durant 6 semaines. J'appris beaucoup pendant ces entrevues sur sa vie et ses expériences, sur son attitude par rapport à de nombreux objets tant profanes que spirituels. J'observais également comment elle conseillait ses nombreux dévots qui venaient à elle avec toutes sortes de questions et de problèmes. Ma, c'est comme ça que c'est un peu la forme familière pour mère en Inde, ou Sadhguru, qui est un titre qui signifie vrai gourou, est en fait un cas unique parmi les femmes de l'Inde, car elle est en même temps gourou et sannyasi. Pour apprécier Ma et ses interviews à leur juste valeur, il faut avoir une idée de l'importance de ces deux rôles religieux. Le gourou est peut-être le spécialiste religieux qui a la plus grande influence dans la culture indienne. En tant que guide religieux, les gourous n'ont habituellement pas de charge officielle dans les temples locaux et ne peuvent présider à aucune cérémonie. En revanche, ils sont les conseillers de leurs disciples et enseignent l'art de la méditation et de la compréhension spirituelle. Le lien entre le disciple et son gourou est très fort. Lorsque le disciple trouve le gourou qui lui convient, il doit se donner à lui totalement. Le sannyasi, d'autre part, a fait le vœu formel de renoncer à toute vie selon le monde, y compris aux liens familiaux et aux biens matériels. Un tel vœu signifie effectivement mourir à la vie d'avant. Il permet de se dédier complètement à la poursuite des buts spirituels et nourrit le développement spirituel. Ce genre de vœu est typique de l'Inde, ancienne, mais contemporaine aussi. Tous les gourous ne sont pas des sannyasis et tous les sannyasis ne sont pas des gourous. Cela dit, à part quelques exceptions fameuses dans l'histoire de l'Inde, les femmes n'ont pas coutume d'assumer l'un ou l'autre rôle. En fait, Jnanananda est la seule femme à qui il n'ait jamais été accordé de prononcer les vœux sannyasa par le grand maître actuel de l'hindouisme classique, Advaita, le Shankaracharya de Kanchipuram, et qui est l'une des figures religieuses jouissant de la plus grande autorité en Inde du Sud aujourd'hui. Le grand maître accepta cette exception parce qu'il avait reconnu en elle une jani totalement accomplie, c'est-à-dire une personne qui a fait l'expérience des vérités les plus profondes de l'hindouisme, Advaita, à travers les différents états de conscience mystique. Elle avait atteint ce résultat pendant sa vie dans le monde, alors qu'elle était mariée et mère de 5 enfants. On ne s'étonnera pas que quelqu'un qui a tellement approfondi la vérité devienne gourou et enseigne la discipline spirituelle. En fait, Jnanananda avait déjà des étudiants avant de prononcer les vœux de sannyasa. Je m'étais arrangée pour prendre part au Darshan du vendredi 9 mars 1979, au cours duquel Ma allait rencontrer ses dévots. Le Darshan devait débuter à 17h30. Nous déposâmes nos vélos après le portail et fûmes accueillis par l'un des nombreux jeunes dévots qui allait la seconder durant le Darshan de cette soirée. L'étincelle de ferveur religieuse qui brillait dans leurs yeux, leur attitude attentive et une légère nervosité étaient autant de marques familières du sentiment éprouvé en présence d'un saint. Il y avait, à l'arrière du bâtiment, un abri au plafond bas, converti en lieu d'accueil et halle de prière. Une grande photographie de Sadhguru, surplombée par une lampe rouge couverte de fleurs, était accrochée contre la paroi du fond. Nous attendîmes dans cette pièce avec les autres. Lorsque ce fut notre tour de voir Ma, nous gravîmes l'escalier extérieur du bungalow et entrâmes directement dans la pièce où Ma se trouvait, assise sur une natte recouverte d'un petit tapis orange. « La première impression qu'on a de Jnanananda, c'est son franc et large sourire. Beaucoup de ses photographies la montrent ainsi. Désormais, à cause de son vœu de sannyasa, elle a abandonné tout signe de vanité humaine, tel que cheveux longs et bien coiffés, bijoux et saris. Elle est vêtue d'un tissu ocre dans lequel elle s'enroule et enduit son front et ses bras d'une pâte épaisse de cendre disposée en raies horizontales. Ses cheveux sont coupés courts. Les photos trahissent combien elle était belle avant son passage à la vie ascétique. Elle l'est encore, mais on a l'impression que sa beauté reflète davantage aujourd'hui son état spirituel. Un petit rire chantant accompagne parfois ses explications. On ressent en sa présence une joie rayonnante et paisible. En me saluant, elle demanda où j'avais été depuis le mois de novembre précédent. Puis elle me demanda de quoi je désirais m'entretenir avec elle en ce moment et fit allusion aux 12 questions que je lui avais laissées lors de notre dernière entrevue. Elle voulait fixer un rendez-vous pour les aborder et presque sans transition, elle se mit à parler d'un point de vue spirituel. Elle faisait usage d'un anglais vigoureux, plein de traits idiomatiques, teintés d'un accent clair. Ses manières sont totalement naturelles, familières, maternelles même. Les gestes de ses mains sont amples et gracieux. Elle se réjouit de voir que son auditeur saisit ce qu'elle veut dire. Elle rejette sa tête en arrière et rit de bon cœur lorsque l'on trouve son discours amusant. Elle dit peu après le début de notre entretien. « Mon œuvre croît lentement, mais elle va devenir très grande. Le monde est prêt pour elle. Il y en a besoin avant que le chaos ne submerge tout. » J'enseigne la voie du renoncement, quel que soit le cours de votre vie et de votre activité. J'ai suivi cette voie et j'ai passé par un terrible temps d'austérité pendant de longues années. Mais le divin m'a parlé sans cesse, je n'ai jamais eu de gourou, tout est venu du dedans. J'ai eu des années durant une sensation effrayante de brûlure sur tout le corps. J'ai tenté toutes les sortes de médications ayurvédiques, homéopathiques et allopathiques. Vous imaginez ? Les docteurs m'ont même fait des injections. Mais le commandant divin m'est parvenu, dès aujourd'hui, tu jeûnes. Et il n'a jamais dit jusqu'à mardi prochain. Cela continua indéfiniment. À la fin, la privation de nourriture provoqua la dysenterie jusqu'à l'hémorragie. Vous savez, j'avais des disciples dans ma vie mondaine, il y a 25 ans. Et ce n'est donc rien de nouveau. Je les dirigeais même durant la période où j'étais maîtresse de maison. Vous pouvez vous demander pourquoi je suis restée si longtemps à ce stade. C'est en partie pour mes enfants. Le divin me parla et me dit que mes enfants auraient un avenir extraordinaire. Deux d'entre eux ont collaboré de très près avec moi. Ils finiront par devenir sannyasis. Ma plus jeune fille, qui n'avait alors que 5 ans, a observé volontairement le jeûne du Shivaratri qui dure un jour plein, sans boire, même un peu d'eau. En vérité, je n'ai pas requis l'initiation de notre grand maître. C'est venu comme un commandement divin. Il était en déplacement et passa par la ville où je vivais à l'époque. Je me rendis à la maison où il logeait. Vous savez qu'on n'y reçoit jamais de femme. Mais il me reçut, lui. Alors l'impulsion me vient. Je lui demandai s'il viendrait chez moi. Ils ne vont jamais chez les privés. Il sourit et dit « Tu désires que je vienne chez toi ? Où habites-tu ?» Je lui donnai mon adresse et nous prîmes rendez-vous. Il avait à peu près de 200 personnes autour de ma maison aujourd'hui. Mais je n'en faisais pas cas. Je n'avais pas besoin d'un gourou, je ne faisais que suivre des instructions. Lorsqu'il arriva, j'étais à l'étage supérieur. Jusqu'à cet instant, j'avais été en discussion avec les gens qui m'entouraient. Mais à son arrivée, je tombais en samadhi. Il n'y avait personne pour le recevoir au portail. Ainsi, il entra tout simplement au salon et s'assit. Alors je me réveillai et descendis. Il resta là un petit moment et repartit. Mais je le répète, je ne sentais pas le besoin de lui demander d'être mon gourou, bien qu'il m'ait effectivement donné un mantra diksha, c'est-à-dire l'initiation à une phrase sacrée en sanskrit qu'on utilise pour la méditation, ce qui ne se fait jamais pour une femme normalement. Ceci se passa lors de notre première rencontre. Ce fut le commandement divin qui me conduisit à demander l'état de sannyasa. Ce n'était pas nécessaire du moment que mon tapas et mon travail spirituel étaient déjà à leur terme. En fait, il y avait beaucoup de gens pour trouver ambigu qu'une femme soit initiée par le grand maître. Mais maintenant qu'ils voient à quoi je ressemble et quelles sont mes dispositions, il y a moins de résistance. Thank you. Charles White demande à Ma, ces jeunes gens que vous initiez à l'état de Sannyasa vont-ils travailler avec vous ? Oui, dans une certaine mesure. Je peux faire appel à eux à l'occasion. Le premier d'entre eux, Sadashiva Jiri, qui était avant officier des forces de l'air indienne, je l'ai envoyé dans un ashram, une communauté religieuse, à 180 km d'ici. Il lui reste pas mal de temps d'austérité et d'exercice spirituel à pratiquer. Charles White, avez-vous le projet de former des femmes au Sannyasa ? Ce n'est pas une question d'homme ou de femme. Je cherche le meilleur matériau. Et jusqu'à ce jour, ces jeunes gens se sont montrés les plus adéquats. Lors d'une autre interview, en fait presque la dernière, Ma Sadhguru développa plus longuement le sujet de l'état mystique de Samadhi, l'état de transe qui avait tant d'importance dans son rôle de gourou. Quand je vins la voir le 4 avril 1979, son fils aîné me fit savoir qu'elle avait été en Samadhi, en transe, à peu près sans arrêt les quelques jours précédents. Il m'avertit qu'elle aurait peut-être de la difficulté à répondre à mes questions. Dès que je m'assis en face d'elle pour le darshan, je pus sentir une différence, pour ainsi dire, dans son niveau de conscience. Dans une sorte de réaction sympathique, je me sentis même entraînée dans son auto-absorption et n'eus plus grand désir de mener une conversation. Mais nous fîmes les deux un effort et je pus quand même recueillir une ou deux explications. Elle m'expliqua qu'elle avait souvent ressenti cet état de profonde absorption et dès son enfance, ceci, ajoutant que lorsqu'on a réussi à s'y fixer de façon définitive, il n'y a plus d'ego. Pour elle, c'est maintenant un état permanent à l'arrière-plan de sa conscience. Le samadhi, cet état de transe, est l'expérience d'une absence de contenu, mais pas de la vacuité. C'est la totale plénitude. Dans cet état, je me demande toujours « où suis-je ?». Puis, j'essayais de me situer mentalement à un point donné. Je me sentais immédiatement à l'opposé. Bref, c'est le sentiment de se sentir simultanément présent partout. Il n'y a pas de perception du monde physique. Celui-ci est dissous dans l'unité. Elle dit qu'en un certain sens, elle avait été un enfant différent des autres. Elle n'avait jamais été distraite par les choses qui troublent la plupart des gens. Problème de maîtrise de soi, par exemple. Et déjà, comme petite fille, elle avait connu un état semblable au samadhi. Je savais que j'étais au bord d'une mer. Au début, il y avait d'autres gens avec moi, puis je me trouvais seule. Les vagues montaient et je me sentais qu'elles allaient m'enlever. J'avais peur, mais un moment plus tard, je vis sans peur que les vagues me submergeaient complètement. Au cours de ces premiers voyages en samadhi, je vis parfois la lune qui brillait sur un océan tout à fait sombre. Ce qui est, Shankaracharya, notre grand maître, me l'a dit, l'un des signes de la jhani authentique. J'ai aussi pu contempler et contemple encore de temps en temps à autre dans cet état de conscience une éblouissante lumière blanche. À un moment donné, il y a des années, alors que j'atteignais ce que je ne savais pas encore être le plus haut niveau du yoga classique, je crus devenir folle. En fait, on était prête à m'emmener à l'hôpital psychiatrique. Mais la voix divine me commanda de me rendre à une librairie toute proche. Là, sur un rayon, dans un certain livre, il y avait une phrase qui me conduisit à la description de l'état yoga avancé dans lequel je m'étais trouvée. Pour le moment, Ma paraît s'adonner principalement à l'enseignement. Elle reste chez elle la plupart du temps et ne préside plus de cérémonies religieuses. Les réunions communautaires qui faisaient auparavant partie de son emploi du temps ordinaire ont été temporairement suspendues. Ma semble aujourd'hui se concentrer sur ses relations personnelles avec ses disciples et sur un travail d'accompagnement des gens qui cherchent à entraîner dans son cercle. J'ai pu, à l'occasion de plusieurs interviews, lui poser des questions dont j'attendais qu'elle mette mieux en lumière son enseignement, son expérience de la vie et ce qui lui était spécifique en tant que femme. À d'autres moments, j'ai eu la permission d'assister aux entretiens qu'elle partageait avec ses étudiants et d'entendre les conseils qu'elle donnait à ceux qui la consultaient. Une grande partie de ce qu'elle dit durant ses entretiens ressemble tout à fait à ce qu'elle dirait, à ce que dirait n'importe quel gourou indien, homme ou femme. Ce n'est que sur certaines questions qui concernent spécifiquement les femmes que surgit parfois un trait typiquement féminin. Et le 15 mars 1979, Ma Sadhguru m'accorda une interview particulière de 2 heures. Je rapporte ici mes questions et ses réponses. Est-ce la part publique de la vie du maître spirituel ? Est-ce que la part publique de la vie spirituelle vous distrait ? Il n'y a rien qui puisse distraire quelqu'un qui est complètement réalisé. Réalisé est un terme employé dans le langage de la spiritualité indienne pour indiquer une identification entière à Dieu. Donc je répète, il n'y a rien qui puisse distraire quelqu'un qui est complètement réalisé. Mais un contact prématuré avec le public est très dangereux. Cela peut faire croître l'orgueil, l'arrogance et l'égoïsme. On ne devrait pas enseigner sans avoir reçu le commandement divin. Est-ce que le gourou communique directement avec le cœur et l'esprit de ses disciples ? Cela dépend beaucoup de l'état d'esprit ou de conscience du disciple. S'il à la fois s'abandonne complètement et s'ouvre, je suis entièrement accessible. La pensée d'un tel disciple pénètre dans ma conscience et la réponse est immédiate. Je peux me trouver n'importe où. Le disciple me voit peut-être malaisément, mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas accès à mon aide ou à la communication avec moi. Quelle forme a revêtu votre sadhana, c'est-à-dire votre pratique de la spiritualité, depuis que vous avez prononcé le vœu de sannyasa, c'est-à-dire de renoncement à la vie publique, à la vie dans le monde, en mai 1975? Je ne pratique pas de méditation ou de culte particulier. Je suis toujours immergée en Dieu. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Est-ce qu'un sadhguru comme vous accomplit des miracles ? La question des miracles a toujours fasciné le public. Tout ce que je puis en dire, c'est que des miracles, c'est le mot approprié, se sont produits parmi mes dévots. Il y a l'exemple d'un jeune sannyasi à qui j'ai enseigné l'art de la méditation et la théorie de l'Advaita. Un soir, qu'il était en chemin pour venir chez moi et qu'il dialoguait en lui-même pour savoir ce qu'il devait penser à moi sous forme ou sous la forme d'une déesse, il ne vit pas une moto qui lui fonçait dessus dans l'obscurité.